Chapitre 21. Peur panique. Concord, New Hampshire. Vendredi 16 juillet 2010.
Comment êtes-vous au courant ?
Balbutia-t-il. C'est forcément Sally qui vous en a parlé. Nous nous trouvions dans une petite salle réservée aux visites d'avocats. Gail, Wood et Patricia étaient assis à une table face à Eric, tandis que Lorraine et moi nous tenions dans un coin en observateur.
J'ai montré la photo à Perry et Marcus,
annonça Lorraine qui peinait à contenir sa colère.
Pourquoi m'as-tu demandé de garder le secret à propos de cette photo, Eric? Pour qu'on ne découvre pas les saloperies que tu as faites à Sally Carré? Tu m'as manipulé alors que je me bats pour toi depuis 11 ans.
Putain,
gémit Eric.
Je me dégoûte de ce que j'ai fait. J'étais un pauvre type. J'étais amoureux de Sally quand elle m'a largué. J'ai eu envie de me venger.
Quand on vous largue, vous réagissez comme ça?
Donna Gallwood.
Bien sûr que non.
Oh, alors vous avez simplement un tempérament vengeur. Encore mieux. Vous comprenez, Eric, que ça ne plaide pas en votre faveur.
Enfin, sergent, c'était il y a plus de 20 ans. J'étais un gamin, j'étais un pauvre idiot.
Quoi d'autre?
Demanda Patricia d'un ton sec.
Y a-t-il des épisodes de ton existence dont tu as omis de nous parler et qui pourraient peser dans l'enquête?
J'en sais rien, répondit Eric décontenancé. J'imagine que tout peut avoir son importance.
C'est vrai, intervint Gallwood. Alors laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Est-ce que vous avez été contrôlé par la police avec Alaska à bord de la voiture de Walter Carré le lundi 22 mars 1999 sur le parking d'un supermarché de Conway?
À nouveau, Eric afficha un air renfrogné, comme s'il était pris en faute. Il ne put s'empêcher de demander.
Comment le savez-vous?
Patricia eut un geste d'agacement.
Gail Wood explosa. Parce que tout finit par se savoir, Eric. Ainsi va la vie. Alors racontez-nous maintenant et en détail. Et si vous continuez avec vos mensonges ou vos trous de mémoire, je referme ce dossier et je vous laisse pourrir ici.
Mais qu'est-ce que j'aurais dû faire, sergent? Lorsque vous m'avez cuisiné pendant 20 heures de suite il y a 20 ans, sans manger, sans dormir, à me crier dessus, à m'expliquer que j'étais foutu, que je finirais exécuté, et à agiter sous mes yeux mon pull couvert du sang d'Alaska, ou encore des messages de menaces provenant de mon imprimante. Vous imaginez ce qui a pu me passer par la tête? J'avais visiblement été piégé. C'était un cauchemar, tout m'accusait. Je n'arrivais pas à me défendre. J'avais beau hurler mon innocence, vous ne vouliez pas en entendre parler. Chacune de mes paroles était retournée contre moi. Vous aviez votre coupable tout désigné, sergent, et vous m'avez traîné dans les profondeurs de l'enfer. Alors ne venez pas aujourd'hui me faire la morale et m'expliquer ce que j'aurais dû faire. Ne venez pas me reprocher de ne pas vous avoir relaté un épisode peu glorieux de ma jeunesse dont je ne voyais pas le lien avec l'affaire, si ce n'était de me faire passer pour un cinglé. Ou encore d'avoir oublié de vous raconter que je m'étais fait contrôler par la police lors d'une dispute avec Alaska.
Il y eut un long silence. Eric et Gallwood se dévisageaient comme deux lions prêts à se sauter à la gorge. Finalement, Patricia demanda d'une voix douce.
Eric, peux-tu nous parler de cette dispute? Que s'est-il passé avec Alaska devant ce supermarché?
C'était un lundi. Je me souviens plus de la date exacte, mais si vous dites que c'était le 22 mars, alors c'était ce jour-là. Je me souviens du jour de la semaine car j'avais congé les lundis. Je me suis rendu à Conway, dans ce centre commercial, où il y avait notamment un magasin de photos qui vendait du matériel d'occasion à prix bradé. Il y avait de nombreuses enseignes là-bas, dont ce supermarché. Conway, lundi 22 mars 1999. Eric sortait du magasin de photographie lorsqu'il remarqua la voiture de son copain Walter qui se garait sur le parking du complexe commercial. Le véhicule reculait. Eric ne pouvait pas voir le conducteur, mais il pouvait parfaitement lire la plaque qu'il aurait reconnue entre mille. Il s'amusa de la piètre manœuvre pour ranger la Ford Taurus entre une camionnette et un monospace. Resté à distance, il s'apprêtait à chambrer Walter pour sa maladresse quand il fut surpris de voir Alaska sortir de l'habitacle. Elle était seule. Pas de Walter. Elle se dirigea vers le supermarché et il l'intercepta devant l'entrée.
Alaska?
Salut, Eric.
Walter est avec toi?
Il est parti hier au Québec pour une convention de pêche.
Comment s'est-il rendu là-bas puisque sa voiture est ici?
avec le pick-up de son père, pour ramener du matériel. Ma voiture a une fuite d'huile, du coup j'ai pris la sienne. Tu as d'autres questions ?
Elle semblait sur la défensive. Désolé, je ne voulais pas être indiscret. Je te laisse faire tes courses. Bonne journée. Elle soupira comme si elle était désespérée.
Pardonne-moi, Eric, je ne suis pas de bonne humeur et je me sens coupable de te croiser devant ce supermarché où je m'apprête à faire mes courses au lieu d'aller dans le magasin de tes parents.
Tu fais ce que tu veux, la rassura Eric.
Tu sais ce que je n'aime pas à Mount Pleasant ? Cette impression que tout le monde épie tout le monde. Même quand je fais mes courses, j'ai le sentiment qu'on scrute mon caddie et qu'on me juge sur mes achats. J'ai toujours rêvé d'être célèbre, mais si être célèbre signifie vivre comme à Mount Pleasant, franchement, non merci.
Eric éclata de rire. Je ne te juge pas, Alaska. Tu peux faire tes courses tranquillement. Bonne journée. Il tourna les talons, mais elle le retint.
Je vais quitter Walter.
Quoi ?
Je vais le quitter. Je vais quitter Mount Pleasant. Garde-le pour toi, s'il te plaît. Je voulais juste le dire à quelqu'un.
Sa confidence faite, Alaska s'engouffra prestement dans le supermarché. Eric s'apprêtait à repartir, mais il renonça. Il voulait en savoir davantage. Il ne pouvait se contenter d'être le confident d'un tel aveu sans intervenir en faveur de son ami. Il devait parler avec Alaska et il décida de l'attendre. Lorsqu'elle réapparut avec ses courses, il lui lança
« Pourquoi tu le quittes ?»« Ce ne sont pas tes affaires, Eric.
Tu as quelqu'un d'autre ?
Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. »
Tu ne peux pas lâcher une bombe pareille et t'attendre à ce que je reste impassible.
Je regrette de t'en avoir parlé.
C'est trop tard. Que se passe-t-il avec Walter, Alaska ? L'insistance d'Eric agaça Alaska. Le ton monta, attirant les regards suspicieux des passants. Soudain, Alaska éclata en sanglots.
Laisse-moi, Eric.
Je sais que Walter va être brisé. Explique-moi au moins pourquoi tu le quittes. Tu ne peux pas me faire une confidence de ce genre et me demander de la garder pour moi. Tu me mets en porte-à-faux vis-à-vis de Walter. » Un homme intervint à cet instant. C'était le gérant du supermarché. « Tout va bien, mademoiselle ? » demanda-t-il à Alaska. « Oui, tout va bien, » le rabroie Eric. « Ce n'est pas à vous que je parle, » répliqua le gérant. « C'est une affaire privée, » s'emporta Eric. « Mêlez-vous de vos oignons. Puisque c'est comme ça, j'appelle les flics. » Le gérant du supermarché est retourné à l'intérieur du magasin, nous raconta Eric. Et soudain, Alaska a disjoncté. Elle s'est mise à paniquer. Elle a dit « Il va appeler les flics, putain, il va appeler les flics !» Et là, elle s'est enfuie vers sa voiture, abandonnant ses commissions. Je ne comprenais pas ce qu'il lui prenait. J'ai ramassé ses courses pour les lui apporter. Elle était déjà assise au volant, prête à démarrer. J'ai ouvert son coffre et elle s'est mise à crier « Qu'est-ce que tu fais, Eric? Il faut que je m'en aille !» Elle était complètement paniquée. Comme je restais derrière la voiture, elle a fini par sortir de l'habitacle et m'a hurlé dessus « Fous le camp, Eric !»
Conway, lundi 22 mars 1999.
« Fous le camp, Eric !»« Alaska, qu'est-ce qui te met dans un état pareil ?»
Elle voulut le repousser, mais il lui attrapa les mains.
« Mais tu ne comprends pas !»
hurla-t-elle en pleurs.
« Mais qu'est-ce que je ne comprends pas ? Laisse-moi partir !»«
Je vais te ramener !» décréta Eric.
Tu ne peux pas conduire dans un état pareil. Je reviendrai chercher ma voiture plus tard.
Sans attendre l'aval d'Alaska, Eric s'installa à la place du conducteur. Elle se précipita sur le siège passager.
Démarre ! Démarre !
Ordonna-t-elle. Mais à peine Eric avait-il démarré qu'une patrouille de police, gyrophare enclenché, leur bloqua la route. Alaska fit un effort pour se donner une contenance, comme si elle avait quelque chose à se reprocher. Elle s'essuya les yeux. Un policier s'approcha de leur voiture et passa la tête par la fenêtre qu'Eric avait baissée.
« Qu'est-ce qui se passe ici ? » demanda-t-il.
« Rien ? »
assura Alaska.
« Rien ? On a été appelé pour une altercation. »
Alaska sourit.
« Vous ne vous engueulez jamais avec votre femme, monsieur l'agent ? Si on ne peut plus se disputer sans que la police débarque ?»
Le policier contrôla rapidement le permis de conduire d'Eric ainsi que les papiers de la voiture. Comme tout était en règle, il s'en alla. Alaska laissa de nouveau couler ses larmes, mais cette fois de soulagement. Eric posa une main réconfortante sur son épaule.
« Alaska, qu'est-ce qui te met dans cet état ?»« La police, »
murmura-t-elle.
C'était comme si Alaska avait une peur panique de la police, nous raconta Eric.
Elle vous a expliqué pourquoi ?
Demanda Gaal Wood.
Non, je l'ai ramené à Mount Pleasant. Nous sommes restés silencieux pendant tout le trajet. C'était perturbant de la voir dans un tel état. J'ai garé la voiture sur la rue principale, au niveau du magasin des Carrés, et j'ai rendu les clés à Alaska.
Et Sally Carré vous a vu ?
Indiqua Gaal Wood.
C'est très possible. On était devant son magasin, je n'avais rien à cacher.
Sally Carré évoque une dispute entre vous.
Eric fronça les sourcils, comme s'il faisait un effort de mémoire.
Oui, dit-il, c'était à cause de mon pull.
Le pull qu'on a retrouvé ensuite sur le lieu du crime ?
Ce pull, je l'avais prêté à Walter 2 jours plus tôt, le samedi, lorsqu'en pleine partie de pêche, nous avions été surpris par la pluie. Je vous ai déjà raconté tout ça l'autre jour, et je vous l'ai raconté aussi il y a 11 ans. En bref, ce lundi-là, en déposant Alaska, je ne vois pas le pull sur la banquette arrière. Je me dis qu'il doit être chez eux. Sur le trottoir, je le réclame à Alaska. Je ne sais pas de quoi tu parles, Eric. Un pull gris avec le logo de Monarch University. Je ne l'ai pas vu et c'est moi qui ai fait les dernières lessives. Est-ce que je peux monter chez toi pour regarder ? Je tiens à ce pull. Là, Alaska s'est énervé. C'est tout ce qui te préoccupe après ce qu'on vient de vivre. Tu n'as qu'à demander à Walter. Oh, tu veux vraiment que j'appelle Walter et que je lui raconte tout ce qui vient de se passer ? Elle est partie, furieuse, et elle est remontée chez elle.
Et ce pull, alors ?
Demanda Gaal Wood. Alaska m'a dit d'appeler Walter et je l'ai fait. Il m'a dit qu'il l'avait laissé dans le coffre de sa voiture. Alors le lendemain, en voyant depuis le magasin de mes parents Alaska qui se garait sur la rue à bord de la Ford de Walter, je l'ai intercepté et je lui ai demandé d'ouvrir son coffre pour que je puisse récupérer mon pull. Elle m'a dit que je lui courais sur les nerfs avec cette histoire de pull. Elle a ouvert le coffre de mauvaise grâce. Le pull n'y était pas. Je n'y comprenais rien. J'en ai parlé à Walter à son retour de Québec. Il m'a dit qu'Alaska l'avait peut-être lavé et rangé dans ses affaires par erreur, qu'il lui demanderait. Mais moi, j'ai dit à Walter que j'avais justement interrogé Alaska qui n'avait aucune idée d'où était ce fichu pull. Le quiproquo était total. Walter a fini par me dire qu'il allait vérifier chez lui. J'imaginais bien que ce pull allait réapparaître. Mais à la fin de la semaine suivante, Alaska était assassinée. Ensuite, tout s'est passé très vite. 3 jours plus tard, je me retrouvais dans une salle d'interrogatoire de la police avec ce pull couvert de sang comme pièce à conviction contre moi. Walter et Alaska, les deux seuls à pouvoir confirmer cette histoire de pull, étaient morts. Chaque fois que je pense à ce pull, je pense à ce moment sur le parking du supermarché de Conway, lorsque je range les courses d'Alaska dans le coffre. Ce pull s'y trouvait-il ? Je n'en sais rien. Et je revis cette scène en boucle, je me revois ouvrir le coffre et je me demande si ce putain de pull est là. Est-ce que Walter m'a menti à propos de ce pull ? Ou est-ce qu'il a été volé dans la voiture ? Les gens ne sont pas très méfiants à Mount Pleasant, encore moins il y a 11 ans. On laissait facilement les voitures ouvertes, on ne fermait les maisons à clé que lors d'absences prolongées. Les explications d'Eric corroboraient parfaitement la version de Sally Carré. Gaal Wood ne l'évoqua pas à ce stade et poursuivit.
Une autre question nous tracasse, Eric. Début septembre 1998, vous quittez Salem quasiment du jour au lendemain. À vos proches, vous direz que vous avez été licencié. C'est faux, vous avez démissionné. Vous vous êtes enfui de Salem. Pourquoi ?
Enfui, c'est un grand mot, sergent. Je ne supportais plus d'être à Salem. Ma copine m'avait quitté pour un autre. J'étais désemparé, mon père était malade. J'avais besoin d'un retour aux sources. Ça ne me semble pas extraordinaire. Eh oui, j'ai menti à mes parents en invoquant un licenciement. Et vous ne connaissez pas mes parents ? La scène qu'ils m'auraient faite si je leur avais avoué abandonner un bon boulot très bien payé, alors qu'eux ont souvent eu du mal à joindre les deux bouts.
Les explications d'Eric sur son départ de Salem se recoupaient avec le récit de Regina Speck, la patronne du Season. Nous savions désormais qu'Alaska avait une peur panique de la police. Pourquoi ? Nous ne pouvions qu'y voir un lien avec son départ précipité de Salem et ses messages qui disaient « Je sais ce que tu as fait ». Qu'est-ce qu'Alaska fuyait ? Au sortir de la prison, nous décidâmes de nous rendre, Lorraine, Gaal Wood et moi, à Salem. Patricia, elle, devait retourner à Boston.
La matinée touchait à sa fin lorsque nous arrivâmes dans le Massachusetts. Nous commençâmes par aller rendre visite aux anciennes amies d'Alaska que Lorraine avait pu localiser. Une grande partie d'entre elles étaient des copines d'enfance ou du lycée, dont les récits qui nous firent remonter jusqu'aux 18 ans d'Alaska ne nous furent pas d'une grande aide. En revanche, les amies qu'Alaska s'était faites lors des concours de beauté, soit dans les dernières années de sa vie, apportèrent un éclairage intéressant. Elles s'appelaient Brooke Rizzo, Andrea Brown, Stephanie Lehan et Michelle Spitzer. Nous les rencontrâmes tour à tour. Elles s'accordaient toutes sur un point, Walter Carey n'était pas le grand amour d'Alaska. Brooke Rizzo. On ne sait pas trop ce qu'elle lui trouvait à ce Walter. Je pensais que c'était une passade. De toute façon, il venait de façon sporadique. Je pensais qu'Alaska papillonnait. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle parte vivre avec lui dans le fin fond du New Hampshire. Andrea Brown. Je crois que ça amusait Alaska de sortir avec un type plus vieux. En même temps, il me semble que c'était sa première relation sérieuse. Enfin, sérieuse, si on peut dire. Stephanie Lehan. On n'a pas compris ce qui s'est passé, ni la raison de son départ avec Walter. Elle venait d'être élue Miss Nouvelle-Angleterre. Elle avait tout pour faire une carrière dans le cinéma. En tout cas, c'était bien parti. Pourquoi tout abandonner ainsi? Des menaces? Non. Alaska, en tout cas, ne m'en a jamais parlé. Ni Brooke, ni Andrea, ni Stéphanie ne pouvaient faire un lien entre un événement particulier et ce départ à Mount Pleasant. C'est la quatrième amie, Michelle Spitzer, à qui nous rendîmes visite en dernier, qui évoqua une raison et surtout un nom que nous n'avions pas entendu jusque-là. Michelle Spitzer. Ce qui a pu se passer à Salem, j'en sais rien. Elle a sans doute été secouée par le suicide d'Eleanor, comme nous toutes. Vous dites qu'Alaska a reçu des menaces? De quel genre? Eleanor Lowell, vous n'en avez pas entendu parler? C'était l'une de nos copines. C'était une jeune femme très belle, mais surtout très troublée. Tout l'inverse d'Alaska. Eleanor était dans la souffrance, sans cesse aux prises avec des angoisses. Elle était même suivie par un psy. Comment Eleanor s'est suicidée? À la nage. On a retrouvé sa voiture et ses vêtements sur une plage de Marblehead. L'apparition du fantôme d'Eleanor nous intrigua. Ce même jour, nous nous rendîmes à la rédaction du Salem News pour interroger la journaliste Goldie Hawk, qui avait certainement davantage d'informations à nous donner. « Une triste histoire, » déplora Goldie Hawk. « J'avais eu l'occasion de croiser Eleanor à quelques reprises. Elle était le stéréotype de la jeune mannequin, une beauté diaphane au visage d'ange. Elle avait participé à des campagnes pour des marques prestigieuses. Elle était d'un autre calibre. »
« Et sa mort ?» demanda Gallowood.
« Sordide. Elle a envoyé un SMS en pleine nuit à ses parents pour leur dire qu'elle ne voulait plus vivre. Ils ont découvert ce message à leur réveil. Le lit d'Eleanor était vide et ils ont aussitôt averti la police. La voiture d'Eleanor a été retrouvée à Marblehead, sur le parking du Chandler Ovi Park. À proximité du grand phare qui marque la pointe de la côte, il y avait sur les rochers ses vêtements et ses effets personnels. La police a conclu à un suicide. « Probablement par noyade. »«
Probablement. » »«
Son corps n'a jamais été retrouvé. » Gallowood était perplexe. Au sortir de la rédaction du Salem News, il nous dit à Lorraine et moi,
« En août 1998, une jeune reine de beauté disparaît à proximité d'une plage. 8 mois plus tard, une de ses amies, également reine de beauté, est assassinée au bord d'un lac. Dans sa poche, un message, « Je sais ce que tu as fait. »
Je demandais à Gallowood. Vous pensez qu'il y a un lien entre ces deux morts, sergent?
Ça me semble un peu gros pour être une coïncidence. Surtout qu'Alaska a quitté Salem brutalement peu après. La mort d'Eleanor pourrait bien être la raison de sa fuite.
Selon vous, Alaska aurait tué Eleanor? Interrogea Lorraine.
Je n'en sais rien, admit Gallowood, qui n'aimait pas les conclusions hâtives. Mais il faut creuser.
Lorraine ne put s'empêcher de poser la question qui lui brûlait les lèvres. « Sergent, comment êtes-vous passé à côté de cette Eleanor Lowell à l'époque ?»«
On a négligé Salem. On pensait que le meurtre était lié à Mount Pleasant. Et en même temps, à l'époque, rien n'orientait l'enquête vers Salem. Je n'arrête pas de repenser à cette idée de crime parfait. Je crois que nous avons été complètement baladés. »
Galwood voulait rendre une petite visite à la brigade criminelle de Salem, qui avait certainement été chargée de l'enquête autour de la disparition d'Eleanor Lowell. Nous devions également profiter de notre présence en ville pour interroger les parents d'Alaska au sujet des finances de leur fille. Nous voulions comprendre pourquoi, malgré ses économies, elle avait eu ce besoin de trouver un emploi en arrivant à Mount Pleasant. Pour être efficace, il fallait nous répartir les tâches. Lorraine accompagna Galwood au commissariat de Salem, tandis que je pris un taxi pour me rendre chez les Sanders. Donna Sanders était seule chez elle.
Robbie est parti jouer au golf avec des copains. Il a besoin de se vider la tête ces temps-ci. Faut dire que ça nous remue drôlement tout ce qui se passe. Vous prenez un café, monsieur Goldman ?
Nous passâmes un moment dans son salon à discuter. Je crois que Donna Sanders se sentait plus seule que jamais. Elle avait envie de parler de sa fille et son mari devait éviter le sujet.
Chacun a sa façon de gérer le deuil,
m'expliqua-t-elle. J'en profitais pour lui montrer la vidéo de l'audition envoyée par l'agente d'Alaska. Nous l'avions également diffusée aux amis d'Alaska. J'avais emporté mon ordinateur portable à cette fin, mais aucune n'avait été capable d'identifier le lieu où Alaska s'était filmée. Il en fut de même pour Donna Sanders.
Je n'ai jamais vu cet enregistrement,
me dit-elle après le visionnage. Alaska l'a filmé juste après sa victoire au concours de Miss Nouvelle-Angleterre. Reconnaissez-vous l'arrière-plan ? Je repassai la vidéo, mais Donna était catégorique.
Non, je n'ai aucune idée de l'endroit où Alaska pouvait se trouver. C'est important ?
Peut-être. Ce tableau ne vous dit rien ?
Absolument rien. Est-ce pour me montrer cela que vous êtes venu jusqu'à Salem, monsieur Goldman ?
Non, lui répondis-je. Je m'intéresse à l'argent que possédait Alaska. Elle avait des économies, non ? Ses gains accumulés au fil des concours.
Oui, elle était très économe. Elle avait un compte à la Bank of New England, c'est tout ce que je sais. Le reste, c'est Robbie qui s'en est chargé, il faudrait lui demander. Dommage qu'il soit absent. Je vous proposerai bien de l'appeler sur son portable, mais il est d'une humeur de chien quand on le dérange pendant son golf.
Je comprends, ne vous en faites pas. Auriez-vous d'anciens relevés bancaires d'Alaska ?
S'il y a quelque chose, ce serait dans sa chambre. J'ai gardé tellement de paperasses. Robbie me le reproche encore aujourd'hui. Il dit qu'on devrait vider la chambre. Venez, je vous montre.
Quelques instants plus tard, je me retrouvais assis au petit bureau en contreplaqué qu'Alaska avait utilisé, adolescente, pour faire ses devoirs et entretenir sa correspondance. Donna Sanders exhuma plusieurs classeurs où se trouvaient pêle-mêle des souvenirs, des documents plus ou moins officiels et des photos de sa fille. Je l'ai parcouru jusqu'à trouver un vieux relevé de la Bank of New England. Il datait de 1997, ce qui ne m'était pas d'un grand secours. Mais il mentionnait l'adresse d'une succursale de Salem et surtout le nom d'un conseiller au sein de celle-ci, Gary Stenson. La banque était encore ouverte, je tentai un coup de fil sans grand espoir de parler à ce Gary, tout droit sorti de l'année 1997. Mais voilà que la standardiste me le transféra.
Allô ?
Monsieur Stenson ? C'est Marcus Goldman qui vous appelle. J'enquête sur le meurtre d'Alaska Sanders qui était cliente chez vous. J'imagine que ce genre d'entrée en matière fait toujours sensation. Comme j'expliquais à ce monsieur Stenson comment j'avais retrouvé son nom, il me proposa
« Venez à la banque, je vous attends. Dépêchez-vous, nous fermons bientôt. »
20 minutes plus tard, je me retrouvais face à Gary Stenson dans une succursale de la Bank of New England. Stenson était à quelques mois de la retraite après plus de 40 années passées dans cet établissement. C'était un monsieur aux cheveux d'argent, avec une épaisse moustache qui lui donnait un air de morse très sympathique. Il portait une chemise à manches courtes et une cravate rayée.
« J'ai entendu parler de vous, » me dit-il. « Vous savez qu'en principe, je suis tenu au secret professionnel en ce qui concerne mes clients. »
« Je l'imagine bien. »
« Mais Alaska n'est plus une cliente. Son compte a été fermé suite à son décès. Je n'ai donc pas d'informations précises à vous divulguer, ce qui me met à l'aise pour vous répondre. Que souhaitez-vous savoir ?»
Vous connaissiez personnellement Alaska ?
Oui, bien sûr. Son père possède un compte aussi dans cette banque. Je le connais depuis toujours. Alaska était une jeune femme merveilleuse. Si vous saviez ce que j'ai pleuré à sa mort, j'étais effondré. Pourtant, je l'avais peu connue, mais il y avait un tel sentiment de gâchis. Pourquoi vous intéressez-vous à son compte en banque ?
On m'a décrit Alaska comme une jeune femme économe qui avait mis de l'argent de côté pour financer son rêve d'aller vivre à New York. En octobre 1999, environ deux semaines après avoir remporté un prix de 15 000 $, elle déménage à Mount Pleasant. Elle prend aussitôt un emploi dans une station-service. Elle ne se laisse guère le temps de la réflexion. Il y a une précipitation dans sa démarche qui me laisse penser qu'elle était financièrement à sec. Pourriez-vous éclairer ma lanterne ? Le petit homme me dévisagea d'un air déconcerté. Il finit par avoir ces mots que je n'aurais pas imaginé sortir de sa bouche.
« Nom de Dieu !»
Je compris qu'il hésitait à parler. « Monsieur Stenson, l'encourageai-je, vous détenez peut-être des informations cruciales pour l'enquête. »
« Le chèque de 15 000 $ dont vous parlez, Alaska était venu le déposer à la banque avec son père. C'était un compte joint avec une procuration des parents, comme c'est toujours le cas quand on ouvre un compte pour un mineur. Mais ce jour-là, j'ai fait remarquer à Alaska, « Tu es majeur depuis quelques mois, tu n'as plus besoin de ton père pour valider tes opérations bancaires. » Elle s'était sentie toute fière, indépendante. Le lendemain, justement, son père, Robbie, est venu me voir pour faire transférer les avoirs de sa fille dans une autre banque. Il y avait 50 000 $. Il m'a expliqué qu'il allait virer l'argent sur un compte dont Alaska était seule bénéficiaire. Je n'avais aucune raison de ne pas le croire, mais de surcroît, il y avait une procuration sur le compte d'Alaska. Il pouvait faire ce qu'il voulait, je n'avais aucune question à poser. Alors je me suis exécuté. Mais voilà qu'environ deux semaines plus tard, je n'ai plus la date en tête, Alaska est venue pour retirer de l'argent. Quand je lui ai dit que les fonds avaient été transférés par son père, elle est devenue livide. J'ai dit qu'il devait s'agir d'un malentendu, mais elle était sous le choc. Elle est partie furieuse.
« Vous avez eu le fin mot de l'histoire ? » demandai-je.
« Oui, j'ai revu son père quelques jours plus tard. Voilà, ça me revient. Robbie Sanders est passé à la banque, inquiet que sa fille ait fait un scandale. Il n'avait pas eu le temps de prévenir Alaska du transfert. Tout était arrangé. »«
Et c'était la vérité ? » ?»«
Je n'en sais rien. Je n'ai plus jamais revu Alaska.
Elle était partie vivre dans le New Hampshire. » Je compris que l'incident que venait d'évoquer Gary Stenson avait eu lieu le 2 octobre 1998. C'était la véritable raison de la dispute entre Alaska et son père qui avait conduit au départ de celle-ci. Je devais immédiatement parler à Donna Sanders et surtout à son mari. Alors que je me dirigeais vers leur domicile, Gal Wood me téléphona.
« L'écrivain, où êtes-vous ? J'ai des nouvelles pour vous. »
« Moi aussi, sergent. » « Je vais chez les Sanders. Je viens de découvrir que le 2 octobre 1998, Alaska et son père se sont disputés car il avait vidé son compte en banque. Robbie Sanders nous a menti. Cette histoire de marijuana, c'était du pipeau. Robbie avait escroqué sa fille. »«
Ça alors, on se retrouve chez les Sanders. » »«
De votre côté, sergent, qu'avez-vous déterré chez les flics de Salem ?»«
On a récupéré le dossier sur Eleanor Lowell. Il n'y a pas grand-chose, malheureusement. » On a parlé à l'enquêteur en charge à l'époque. Il ne voit pas vraiment le lien entre la mort d'Eleanor et celle d'Alaska. En revanche, on en a profité pour passer en revue les événements criminels majeurs survenus à Salem durant l'année 1998. Figurez-vous que l'un d'eux a retenu toute notre attention. Le 8 octobre 1998, un cambriolage d'une extrême violence a eu lieu chez les Sanders. Un policier a été percuté par une Ford Taurus noire.
« Une Taurus noire ? » m'exclamai-je.
« Je savais que ça vous plairait. »
Et nous n'étions pas au bout de nos surprises. Je retrouvai Gal Wood et Lorraine devant la maison des Sanders. Nous nous y présentâmes ensemble. Donna Sanders était d'apparente bonne humeur.
« Ah, vous êtes de retour !» me dit-elle. « Ça tombe bien, Robbie est rentré de son golf. »
Robbie arriva à la suite de sa femme. Gal Wood leur présenta Lorraine en omettant volontairement son nom de famille.
« Lorraine est de la police de Mount Pleasant, » indiqua-t-il. « Elle travaille avec nous sur l'enquête. »
Lorraine salua les Sanders d'une poignée de main. Elle portait une chemise légère dont elle avait retroussé les manches.
« Monsieur et Madame Sanders, » dit-elle, « nous voudrions vous parler du cambriolage qui a eu lieu chez vous en 1998. »
Robbie Sanders lui adressa un drôle de regard, puis il lui répondit.
« Ça tombe bien qu'on parle de ce cambriolage. Pour quelle raison portez-vous ma montre au poignet ? »